quatrième partie, l'élaboration du récit.
Bon, vas-y, explique-moi comment tu t'es fait voler le matériel.
Bah ça va, je t'ai déjà expliqué, tu vas pas me faire répéter encore et encore par le menu cette erreur d'appréciation. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'avais envie de boire une bière après cette journée de merde.
Mais Jean, je me fiche de ce qui est arrivé. Je veux que tu me dises comment tu vas témoigner. Tu comprends bien qu'on a tous intérêt que ça passe comme une lettre à la poste.
Bien, je suis sorti de chez l'ingé son avec le matériel, j'allais jusqu'à ma voiture.
Elle était garée où ta voiture ?
Elle était dans le parking en contrebas.
C'est un parking privé ?
Non, c'était une place de parking dans la rue.
Et c'était loin de la porte de l'immeuble ?
C'était à quoi, 150 mètres de la porte ?
Avec une telle précision, ce sera beaucoup plus simple pour nos services d'identifier votre agresseur.
Ouais, t'as raison. Plus j'en dis, plus je peux me trahir.
Écoute, si c'était tant que ça, une journée merdique, t'as qu'à jouer l'exploité qui a rien vu, rien entendu, et qui a rien compris à ce qui lui arrivait. Crois-moi, c'est le meilleur moyen de s'attirer la sympathie des flics. De jouer le crétin qui a rien fait comme il fallait parce qu'il pige rien. Qu'est-ce que tu veux qu'un flic aille chercher la merde dans le discours d'un crétin ?
Ouais.
Puis passer pour un crétin dans ton cas, ce sera pas trop difficile, pas vrai ?
Ah, très drôle.
Bon, j'ai plein de choses à voir aujourd'hui, alors je te propose de retourner sur les lieux, de trouver une vraie version des faits, super détaillée et contre laquelle on ne peut rien dire. Et ensuite, attends 2-3 jours avant de déposer plainte, et 10 ans le moins possible.
On peut dire que c'est un pragmatique, le producteur.
En plus, t'es même pas directement concerné, puisque le matériel t'appartient pas et que c'est la boîte qui les
a. Il y a une façon bien à lui de m'expliquer que je n'ai aucune pression à ressentir sur mes épaules.
Alors pourquoi t'irais dire un gros chat ?
Et qu'en même temps, je ne peux pas faillir.
Tu déposes plainte parce que l'assurance le demande et puis c'est tout.
J'admire son management.
T'as aucun intérêt personnel là-dedans, faut que t'aies l'air de t'en foutre.
Faut que tu fonces sans te faire de soucis.
C'est leur métier aux assureurs de payer ce qui est assuré.
On ne va pas y passer
tout
3 heures.
Tout le monde dans cette histoire s'en tire à bon compte.
Mais planifie une version bis du discours crétin.
En comparaison du coût de l'ensemble.
La version la plus précise à laquelle pourrait aller un improbable contradicteur pugnace. De façon à ne pas risquer le procès en fausse déclaration. Est-ce que ça implique vis-à-vis de l'assurance ?
Tu vois, il suffit que tu portes assez bien le costume pour qu'on se mette pas à douter. Tout ce qu'on attend de toi, c'est que tu ne dises rien qui éveille un soupçon, point barre. Sur ce, si tu veux bien...
Alors je retourne sur les lieux. C'est la fin de la matinée. Je me balade sur cette place qui fait office de parking. C'est la place Thiers. Je poursuis ma balade, je refais le fil de la soirée et je me demande quel moment est le plus propice. Je fais le tour du pâté de maison. Je décide finalement d'aller déjeuner dans le bar, dont le nom restait jusqu'à présent inconnu de moi. L'Aventure. Ouais, il porte bien son nom. Mais il ne fait pas le service de déjeuner. Alors je vais un peu plus loin dans une brasserie un peu plus chère, plus proche du centre passant. Dans ce tabac-brasserie où quelques habitués boivent déjà leur deuxième ou troisième verre, je déjeune. Andouillette frite. Puis j'achète 2 paquets de clopes. À la caisse, je remarque qu'une caméra est braquée sur moi. Je cherche le retour vidéo des yeux en suivant les câbles. La clientèle me presse et la patronne m'expédie. Je dois dire qu'elle m'a mis le doute. Je reprends mes vérifications, mon tour paranoïaque. Pas de caméra sur la place Thiers. Pas dans la rue passante. Je vérifierai au bar, sait-on jamais. Pas non plus, vraisemblablement, dans l'immeuble de l'ingé son. Mieux vaudrait tout de même pouvoir vérifier. Mais je finis par me dire que personne ne mettra en doute ma déclaration. Mille scénarios se pressent dans ma tête et j'essaie de trouver celui qui tiendra le mieux debout. Il faut dire que le plus sûr dans mon récit, c'est le vrai. Je veux dire ce qui est effectivement arrivé. Tout le reste n'est qu'un bricolage. Et sans doute, plus ce sera simple, plus ce sera crédible. J'hésite en imaginant diverses versions à solliciter l'ingé son. Il me semble clair que l'intégrer à la couche mensongère, à la couche qui nivelle le réel, c'est prendre un risque inutile. Dois-je pour autant passer sous silence l'histoire du deuxième ensemble de sons que j'ai loué à la dernière minute ? Le passage chez lui, la bière pendant qu'il rédigeait les papiers, tous ces détails insignifiants que je n'ai pas besoin de donner, mais vis-à-vis desquels il faudrait que je puisse statuer une bonne fois pour toutes. De toute façon, le mieux est que je dise le plus possible de vérité, que j'intègre autant que possible les faits réels. Mais si je parle de la deuxième location, on peut me demander si je m'étais déjà fait voler à ce moment-là. Je dirais obligatoirement que oui, puisque si je dis non, comment justifier cette initiative, la deuxième location ? De plus, si je ne me suis pas fait voler, le matériel se trouve dans ma voiture à ce moment-là. Et j'ai donc un intérêt clair à une fausse déclaration. Les vols dans un véhicule sont très mal couverts. Bon, là, j'ai son. Je dirais que je lui ai raconté n'importe quoi. Que c'était bien suite au vol et non suite à une décision de la production que j'ai faite de mon propre chef de la deuxième location. Pour sauver le tournage. Je lui mentais sur la cause pour garder la face. Je me donne quelques principes simples. plus le récit repose sur d'autres personnes, plus il peut se trouver des contradictions. En même temps, je me doute bien sûr qu'aucune version des faits n'est jamais tout à fait raccord, selon qu'on interroge l'un ou l'autre protagoniste de la scène. C'est ce qu'on doit appeler la subjectivité. Mais de là faire rentrer dans le scénario d'autres personnes, non, c'est pas très malin. Idem par rapport au réel fait réel. Mieux vaut s'y tenir le plus possible et broder un seul moment dans un moment d'ombre où je suis seul, nécessairement. Voilà qui est tout héroïque. Maintenant, il faudra que j'invente le modus operandi. Je suppose que le plus simple, c'est de ne pas avoir à donner de description. Enfin, juste le tableau d'ensemble. Et pour le reste, fouiller, ne pas trop savoir. Comment l'expliquer, je ne sais pas, tout s'est passé si vite, en un instant, sans que je comprenne, et tout le reste à l'avenant. Deux gars se sont approchés. Non, plutôt un gars s'est approché. Il m'a demandé l'heure. J'avais ma montre à mon poignet droit, comme d'habitude. Je tenais à la main gauche le sac. Je peux vous montrer, comme ça. Voilà, je ne sais pas précisément. Un gars s'est approché. Je l'ai bien vu, oui, il m'a demandé si je n'avais pas l'heure. Et ensuite, un bras a arraché le sac en bandoulière. J'ai couru pour rattraper l'agresseur. Je crois que je le tenais sur mon épaule gauche. Et franchement, je ne pourrais pas le jurer. Lorsque je suis revenu à moi, un instant plus tard, j'entendais des bruits de pas de course tout autour, et on avait pris la valise sur laquelle j'étais assis. Et elles ont couru plus vite que moi. Quelqu'un m'a fait un croche-pied, je suis tombé par terre. Je n'ai pas eu de contusion. Mon sac plus ma valise. Je ne sais pas trop comment vous dire à quoi ressemblait le type. Il ne faisait pas très clair. Il faisait sombre. Je pense qu'il était châtain. Ou brun. Je dirais qu'il était un peu plus petit que moi. Et il faudrait que je me trouve un modèle comme base de description correspondante. Seulement, il y a encore quelques éléments qui posent problème. Admettons qu'il retrouve, suite au dépôt de la plainte, le matériel. Il prendrait sur le bon coin le receleur, et avec un peu de chance, ce serait le même jobard que celui qui m'a tiré le sac. Il l'interrogerait sur le vol. Et le gars dirait certainement la simple vérité. De l'écart qui existerait entre ma version elliptique et la sienne, simple, efficace, brillante d'ingénuité, moi, à leur place, je conclurais un mensonge. S'il y a eu agression, évidemment, il aurait intérêt à minorer le vol. Mais enfin, en tout cas, si j'étais l'enquêteur, je prendrais la peine de vérifier. Comment pourrait-il trouver de quoi me contredire? Question déjà posée. Question difficile. C'est comme finalement lorsqu'on lit un livre, quand on regarde un film, qu'on juge que ce n'est pas bon, qu'il en fait trop ou que ça ne colle pas. Est-on vraiment toujours capable de donner un détail précis pour arriver à cette conclusion? Non, je crois que c'est plutôt une impression générale. En même temps, il doit bien se trouver des gens minutieux qui, au moindre prétexte offert, diligentent une enquête, ou se donnent simplement le quart d'heure utile pour une vérification. Ouais, c'est ça. Une vérification. Le problème, c'est la première vérification. Si j'ai un doute, une vérification suffit généralement à lever l'incertitude et à reposer l'esprit. D'abord, ne pas laisser le doute se lever, mais s'assurer que la fable d'ensemble n'offre pas de prise à un doute malvenu, à une incrédulité arrogante. Je vais finalement boire le café à l'aventure. Il n'y a pas de vidéosurveillance. Ça, c'était couru d'avance. Et une chose me chagrine tout de même. C'est que j'ai laissé mes coordonnées au bar. Nom, nature du vol et luxe suprême, le numéro de téléphone qu'un agent s'empresserait de composer pour me convoquer. Le bar a tenu cet après-midi par la même femme que l'autre soir. Elle ne semble pas m'avoir reconnu. Comme je termine mon café, je décide de m'accouder au bar pour voir ce qui pourrait être tenté. Je vous prends un autre allongé, s'il vous plaît. La serveuse s'exécute et pendant ce temps, je considère l'espace du bar en espérant trouver un coin où se regrouperaient tous les papiers. Mais je ne vois rien. Peut-être l'avait-elle glissé dans son tablier, je ne me souviens pas. Pour le moment, rien n'est à tenter. C'est un risque inutile, disons. Soyons sérieux. Ni l'assureur, ni la police ne va zoner sur internet et vérifier la facture d'acquisition de ce matos. Il faudrait que le receleur se fasse gauler pour qu'on vienne me voir. Je pourrais statuer plus tard sur ce problème et me concentrer sur la question du dépôt de plainte.
Cinquième partie. Extrait du récépissé de déclaration de plainte. Plainte déposée le 21 octobre 2013 sous le numéro de PV numéro 2013-05-34-46. Objet signalé. Objet multimédia. Type micro marque Sennheiser, modèle MKE600. Précision. Portant scratch jaune de l'association Lésée. Objet multimédia, type magnétophone marque Marantz, modèle PMD 661 MK2, précision, portant scratch, étiquette de l'association et comportant une carte de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater de droit contre X, vol à la tire, scellé, non. Transmis à Monsieur le procureur de la République. L'an 2013, le 21 octobre à 14h53, nous, Mélanie Van de Velde, brigadière de police, agent de police judiciaire, étant au service, agissant conformément aux instructions de Monsieur le commissaire de police, chef du service de sécurité et de proximité, constatons que se présente à nous la personne ci-dessous nommée qui nous déclare, sur son identité, « Je me nomme Favre Jean. Je suis né le 12 février 1978 à Paris, 15e arrondissement, Île-de-France. Je suis de nationalité française. Je suis domicilié au 24 de la rue Montparnasse à Paris, 14e arrondissement. Sur les faits. Jeudi soir, je sortais d'un immeuble à Rennes, rue Saint-Thomas. J'avais avec moi du matériel de cinéma loué à l'association Action. En allant rejoindre ma voiture garée un peu plus loin, je me suis arrêté pour passer un coup de téléphone et pour fumer une cigarette. À cet endroit, il faisait sombre et il ne passait personne. Pendant mon coup de téléphone, un individu s'est approché et m'a demandé une cigarette. J'en profitais pour couper court avec mon correspondant. Je raccrochais et lui donnais une cigarette. C'est alors que l'homme m'a poussé et a pris mon sac de matériel. J'ai voulu courir derrière lui et j'ai chuté suite à un croche-pied qu'un complice m'a fait. Distancé, je n'ai pas pu rattraper les auteurs du vol. Concernant la personne qui s'est adressée à moi et m'a poussé, il s'agit d'un homme âgé d'environ 35 ans, mesurant environ 1m75, de corpulence moyenne, avec des cheveux bruns. Vu cette description, vous me présentez une série de 60 photographies issues du fichier Canonge. Je ne suis pas en mesure de reconnaître cet individu parmi les photographies. Je dépose plainte contre X pour les faits relatés. Je n'ai rien d'autre à déclarer. Après lecture faite personnellement, le déclarant persiste et signe avec nous le présent procès-verbal.
Sixième partie, épilogue.
Cette histoire est derrière moi. Je prends le café à l'aventure, ce café plein de souvenirs et de fiction. Mais fiction comme souvenir, tout retombe et finit par reposer dans l'oubli. Jusqu'à ce qu'un courant d'air soulève ces poussières virtuelles et nous les rappelle à l'esprit. Mais toutes ces fictions-là sont bien de l'histoire ancienne. Et j'ai tiré d'elles tout ce qu'un auteur pouvait en espérer. D'abord, j'ai compris qu'inventer des histoires est un moyen de dominer l'oisiveté. J'observe d'ailleurs que le fait de se trouver dans la peau d'un scénariste est inédit et très effrayant. Maîtriser une narration revient un peu à rester maître de soi. Il s'agit essentiellement de rester maître de tous les détails, de tous les différents aspects dépliés et collés de façon à ce que l'ensemble tienne debout. La facilité est un défaut duquel il vaut mieux se préserver car elle engendre les récits entendus, et en tant que tel pas très captivants. Je vous accorde qu'une banale fraude à l'assurance n'a pas besoin d'être une bonne histoire. Mais je la raconte parce que je crois que la mienne en était une bonne. J'y arrive. Mais avant ça, je veux continuer sur ce qui est à mon avis une bonne histoire. L'ensemble doit paraître simple, coulant de lui-même, non? Mais si ce n'est pas le cas, arrive-t-on à imaginer? Le récit doit à la fois s'avérer remarquable, et en même temps offrir une forme, ou plutôt une apparence d'unité qui désarme le sceptique et la critique. Ceux-là doivent pouvoir regarder le récit et conclure « cela me dit quelque chose, voilà qui mérite plus ample examen ». C'est l'autre activité du scénariste que de ne pas doter son édifice d'une trop grosse prise à la critique. Au contraire, il s'agit plutôt de faire un bâtiment de guerre avec lequel on peut traverser le marais, lutter contre la persécution, contre la surveillance et le contrôle. Un lieu où il est possible de demeurer les mains libres, les rêveurs. Où l'on peut être pris et d'où l'on peut s'échapper. Alors à l'aide d'un magnétophone et d'un micro, je recueille des sons, et les dispose ça et là au long des lignes de mes pages. Je jouis ce faisant d'une grande autonomie, si l'on entend ainsi le fait de disposer le long d'une bande magnétique des rebondissements et des paroles à sa discrétion, selon son propre caprice, ou du moins d'après l'impression qu'on en a. Voyez ainsi ce bruit, et je ne suis plus à l'aventure. D'ailleurs, cette ambiance ne vient pas d'un café qui s'appelle l'aventure, mais d'un autre café. Le café de la mairie. Ce qui, vous me l'accorderez, laisse moins songeur. Ah, vous commencez à saisir. Vous avez le mobile. Le reste était un jeu d'enfant. Il suffisait de saisir la bonne occasion. Et croyez-moi ou non, ces occasions étaient nombreuses. Je n'aimais pas travailler dans cette boîte. J'ai donc un jour décidé de la voler. En définitive, d'ailleurs, je n'ai fait que voler l'assurance. elle-même en spéculant sur le risque, c'est-à-dire sur mon existence, volait l'entreprise. On perd à la virtualité d'un risque autant qu'à son existence. Et au moins en tant qu'existant, mon risque justifiait l'assurance. L'assurance me couvrait, non ? Là, l'excitation de bâtir un bon récit allait de pair avec le profit que je pourrais en tirer, et d'une certaine manière, j'étais payé au bon effet. Qui peut se plaindre que la critique juge dans ces conditions ? En voilà une critique d'art sincère. Jugez une pièce selon que le monde s'y prenne, ou au contraire vous pince et vous passe en procès. Vous me traitez de faussaire. Mais reprochez-vous au marionnettiste d'utiliser un pantin, à l'illusionniste ses illusions. Une bonne fiction doit être menée par un menteur donnant forme à des mensonges. Et d'une certaine façon, la bonne fiction transmute ainsi le mensonge en vérité. Et quand bien même ce ne serait que des mensonges, je ne vois pas pourquoi tout mensonge ne pourra être jugé à l'aune de sa propre fiction. N'est-il pas un des beaux-arts ? Les arts ne sont-ils pas de beaux mensonges ?